Laudetur Jesus Christus.
Restaurants et bars fermés à partir de 18h, cinéma, théâtre et salles de sport fermés tout court. En Italie, le gouvernement donne un tour de vis sur les restrictions sanitaires. Reportage à Rome à suivre. Ils seront 13 à recevoir la barrette cardinalice le 28 novembre prochain. Parmi les futurs cardinaux, le premier issu du Rwanda, Monseigneur Antoine Kambanda. Une nouvelle responsabilité qu'il entend mettre, nous l'entendrons, au service de la réconciliation dans son pays. La colère du Pakistan contre la France, accusée d'attaquer l'islam selon Karachi. Dans de nombreux pays musulmans, des produits français sont boycottés pour protester contre la publication des caricatures de Mahomet. Et puis enfin, direction le Chili. Le pays va se munir d'une nouvelle constitution, plébiscitée lors d'un référendum hier. Les résultats ont laissé place à une vague de joie à Santiago, la capitale chilienne.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à tous. À la une de ce journal, la colère et la lassitude des Italiens. Depuis ce matin, de nouvelles mesures sont mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie. Et cela pendant minimum un mois. Les règles sont drastiques dans la péninsule et provoquent de nombreuses protestations. À Rome, Blandine Hugonnet.
C'est un reconfinement masqué, dénonce depuis hier les catégories directement visées par ces nouvelles mesures italiennes. Alors que le pays dépasse les 21 000 nouveaux cas par jour et que la circulation du virus est jugée critique, le président du Conseil italien ne s'est pas laissé le choix. Pour la troisième fois en seulement 10 jours, un nouveau tour de vis national a donc été décidé. Depuis ce matin, tous les cinémas et théâtres sont fermés pour un mois. Un coup d'arrêt violent pour la culture et pour les loisirs, finis les salles de sport ou les piscines aussi. Quant aux écoliers, les lycéens doivent désormais suivre au moins 75% de leurs cours à distance. Mais la restriction qui fait le plus réagir ici, c'est la fermeture des lieux de restauration dès 18h. Dès ce soir donc, Clemente va devoir chasser ses clients avant l'heure du dîner. Pour ce patron d'un restaurant de la capitale, c'est le coup de grâce.
Une fermeture à 18h, c'est un désastre. Dans la restauration à Rome, ça marche le soir. Le midi, c'est 10 couverts. Le soir, c'est 60. À ce stade, je vais devoir fermer pendant un mois. On respecte toutes les règles. Et c'est encore nous qu'on punit. On va porter plainte contre le gouvernement pour obtenir des indemnités.
Des aides financières, l'exécutif italien en a prévu jusqu'à 2 milliards d'euros dès le mois de novembre, mais pas de quoi calmer la colère des restaurateurs. Pour une fermeture nocturne représente 3 milliards de pertes. Un mouvement de contestation contre les nouvelles mesures grandit dans le pays. Une manifestation nationale est prévue mercredi du nord au sud de l'Italie. À Rome, Blandine Hugonnet pour Radio Vatican.
On reste en Italie, au Vatican, avec cette annonce surprise du pape François hier après la prière de l'Angélus. Il a fait savoir qu'un consistoire ordinaire aura lieu le 28 novembre prochain. 13 cardinaux vont être créés, dont 9 de moins de 80 ans, et donc avec le droit de participer à un prochain conclave. Ils viennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Nord. Il s'agira du 7e consistoire du pontificat de François. Et parmi ceux qui recevront la barrette cardinalice, Monseigneur Antoine Kambanda, c'est l'archevêque de Kigali au Rwanda et il deviendra ainsi le premier cardinal de l'histoire de son pays. Il revient sur le défi que cela représente pour lui et le Rwanda tout entier.
Nous venons de faire un cheminement de 25 ans, maintenant 26 ans après le génocide et nous avons travaillé beaucoup pour la réconciliation. Ça faisait très mal de voir une communauté catholique et chrétienne déchirée, s'entretuer jusqu'au génocide. Et après, nous remercions le Seigneur du cheminement que nous avons fait. Maintenant, quand même, il y a un certain niveau de réconciliation et de l'unité. Et l'encyclique du pape, Tutti Fratelli, ça a été bien accueilli au Rwanda et nous l'améditons, nous l'approfondissons. Ça va renforcer beaucoup et faciliter notre travail de pastoral et de la réconciliation. Alors c'est un défi pour moi maintenant, parce que ayant le rôle de l'évangélisation au niveau de l'Église universelle, et je pourrais aussi témoigner, donner une contribution de ce qu'on pourrait partager avec les autres qui souffrent aussi beaucoup de conflits violents et de déchirements de communautés.
Voilà le Rwandais Monseigneur Antoine Kambanda. Il était interrogé par Jean-Pierre Bojoko. Consistoire à venir le 28 novembre prochain donc. Et plus d'informations sur notre site internet. Le cessez-le-feu, à nouveau violé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh. Le cessez-le-feu aurait dû entrer en vigueur ce lundi, mais déjà, les deux pays s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté la fin des combats. Depuis fin septembre, Bakou et Erevan s'affrontent dans cette enclave montagneuse. Plus de 1000 personnes sont mortes, et cela selon un bilan très partiel. Les produits français boycottés dans les rayons de certains pays musulmans. Au Qatar ou au Koweït, par exemple, des produits français ont été retirés des supermarchés. Une manière de protester contre les propos du président Emmanuel Macron, après que celui-ci a déclaré que la France ne renoncera pas aux caricatures. Le président français également critiqué au Pakistan. Le premier ministre Imran Khan accuse Emmanuel Macron d'avoir attaqué l'islam et d'avoir heurté les sentiments de millions de musulmans à travers le monde. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
Ce n'est pas la première fois que le Pakistan réagit à la publication ou à la promotion de dessins qui représentent le prophète Mahomet. En 2018, Islamabad avait protesté contre un concours de caricatures de Mahomet aux Pays-Bas. Le gouvernement avait aussi envisagé de boycotter Nestlé quand la Suisse avait décidé d'interdire les minarets en 2010. L'islam est la clé de voûte de l'identité nationale au Pakistan. Le pays a été créé en 1947 pour servir de refuge aux musulmans du sous-continent indien. La Constitution précise que les institutions doivent permettre à chaque citoyen musulman de vivre sa foi conformément aux principes de la loi islamique. Le pays applique également une législation anti-blasphème. C'est donc sans surprise qu'Imran Khan s'en est pris au président français. Et ce matin, il a envoyé une lettre au patron de Facebook pour demander l'interdiction sur le site des propos qu'il juge islamophobes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Et ce lundi, l'ambassadeur de France au Pakistan s'est vu convoqué par les autorités pakistanaises. En Irak, un an après la révolution d'octobre, les manifestants se sont réunis à nouveau ce week-end. Ils étaient hier soir jusqu'à tard dans la nuit, des centaines à Nasiraya, le bastion de la révolte, mais également à Kerbala, où la nuit fut marquée par des heurts avec les autorités. Des affrontements également entre la police et des dizaines de jeunes ce matin à Bagdad. Klaxons, pétards et chansons, il y a même eu hier un feu d'artifice dans le centre de Santiago. Dans la capitale chilienne, des dizaines de milliers de personnes ont célébré, jusqu'au couvre-feu, le résultat du référendum d'hier. Plus de 78% des électeurs ont plébiscité un changement de constitution, Marie Duhamel.
Oui, c'était l'une des revendications des manifestations du soulèvement populaire massif qui avait éclaté à la surprise de la classe politique il y a pile un an. Déclenché par l'augmentation du prix du métro, la contestation n'avait eu de cesse de dénoncer les inégalité sociale et la déconnexion des élites face au quotidien du plus grand nombre. Après des mois de manifestations émaillées de violences, parfois, le pouvoir avait accepté l'idée de soumettre au vote un changement de constitution. Elle n'a pas changé depuis la chute de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990. Et si les mesures les plus antidémocratiques avaient été retirées de la loi fondamentale, le modèle néolibéral était resté indemne. Aujourd'hui, les Chiliens ont donc décidé de s'offrir une nouvelle constitution. L'action de l'État, actuellement limitée dans les domaines de la santé ou de l'éducation, pourrait être renforcée. Ce sera aux citoyens d'en décider sans la participation des députés au débat. C'est l'autre résultat du vote d'hier. L'Assemblée constituante sera élue en avril et le nouveau texte soumis à un référendum en 2022.
Merci Marie Duhamel. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires continue son chemin. Signé en 2017, il vient d'être ratifié par un 50e pays, le Honduras, et va maintenant pouvoir entrer en vigueur d'ici 90 jours. À noter cependant que les principaux pays possédant l'arme nucléaire, dont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, n'ont pas signé le texte. Le 3 octobre dernier, à l'occasion de la journée pour l'élimination des armes nucléaires, Monseigneur Gallagher, le chef de la diplomatie du Saint-Siège, avait encouragé les pays à ratifier ce traité. C'est un objectif salué par les écologistes. Le Japon vise la neutralité carbone d'ici 2050. Sous l'impulsion du nouveau Premier ministre Yoshihide Suga, la troisième économie du monde renforce donc ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Pas de calendrier précis cependant pour l'instant sur comment parvenir à équilibrer les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption. Le défi est de taille car le Japon est encore fortement dépendant du charbon. Et puis avant de se quitter, une démission, celle de Monseigneur Emmanuel Lafon, évêque de Cayenne en Guyane. Il doit s'en aller pour raison d'âge. Le Saint-Père a donc accepté sa démission. Les détails sur vaticannews.va. C'est la fin de cette édition. Le prochain retour de la formation, c'est tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite une très belle après-midi.